Voici la seconde partie de la conférence que Pascal Deluit donnait sur les gauches radicales en Europe à l'invitation du CEPULB. Cette seconde partie aborde maintenant la période contemporaine et cette conférence a été enregistrée le 21 mars 2019 à l'auditoire Chavannes du campus de Solbosch de l'ULB.
Bien donc, en 1989, le mur de Berlin s'effondre. Les pays d'Europe centrale et orientale deviennent progressivement des États parlementaires, des États de démocratie parlementaire. Et bien sûr, en 1991, l'Union soviétique implose après la tentative de coup d'État qui visait Mikhail Gorbatchev, le coup d'État le plus rocambolesque de l'histoire du XXe siècle, je pense. Et donc, l'Union soviétique implose. Et à ce moment-là, un grand nombre d'observateurs qui étudient les phénomènes politiques à une échelle plus globale que simplement le cadre national pronostiquaient la fin, non seulement la fin du communisme, mais la fin des perspectives de gauche radicale. Et il y a la fameuse prophétie de Fukushima, la fin de l'histoire. Et de fait, quand on regarde la configuration des années 90, on voit que les partis communistes disparaissent ou se transforment, comme par exemple le Parti communiste italien, qui finalement est devenu l'actuel Parti démocrate, ou intègre des composantes plus larges, comme par exemple GroenLinks aux Pays-Bas. Et ceux qui restent connaissent des performances très modestes et infiniment plus modestes qu'auparavant, comme par exemple les communistes portugais. Et pour autant, c'est une forme de nouveauté, comme je le disais d'entrée, depuis quelques années, il y a une forme de renouveau. On va voir ensemble ce qu'est un renouveau relatif, mais il y a néanmoins des formes de renouveau à la gauche de la gauche, donc dans les gauches radicales. Le trait le plus marquant de cette forme de renouveau, c'est son caractère, contrairement à la période précédente où vous aviez un caractère très homogène lié au mouvement communiste, certainement dans la phase 1917-1956, c'est son caractère très hétérogène, très hétéroclite. Et qu'on retrouve dans les organisations nationales et dans les organisations internationales. Alors, c'est très hétérogène à quel point de vue ? À beaucoup de points de vue. D'abord, le projet politique. Il y a vraiment très, très différents, de nombreux projets différents pour les organisations de la gauche radicale. C'est très différent, je l'évoquerai dans quelques instants aussi, sur le profil idéologique. Vous avez parfois des choses tout à fait neuves et parfois des choses qui viennent du XXe siècle. Et c'est aussi très différent dans la dimension organisationnelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on étudie le mouvement communiste, ce qui est frappant, c'est, d'un point de vue organisationnel, l'importance du centre, l'importance, ce qu'on appelle le centralisme démocratique. Mais dans le centralisme démocratique, le mot important, c'est centralisme. Alors que si vous observez aujourd'hui certaines organisations de gauche radicale, il n'y a quasiment pas de centre. Dans d'autres, il y a à la fois une forme de très grande décentralisation et une forme de grande centralisation. C'est assez étonnant. Donc, le point premier à observer, c'est une grande hétérogénéité d'un point de vue politique, d'un point de vue idéologique, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue des relations avec les autres. C'est très, très, très divers. Alors, si on doit simplifier un peu, donc, vous le savez, quand on fait des typologies, par essence, on écrase beaucoup de nuances. Donc, acceptez que j'écrase beaucoup de nuances. Et je vais quand même essayer de nuancer dans le propos, mais je crois qu'on peut dire qu'il y a trois grandes configurations tendanciellement dans les organisations de gauche radicale contemporaine. Vous avez une première configuration qui sont des partis, des mouvements que l'on va qualifier comme des héritiers du mouvement communiste de la période du XXe siècle. Hein, et parfois, ce sont des partis qui existaient d'ailleurs au XXe siècle, c'est-à-dire qui continuent à rester dans le cadre de pensée, dans le périmètre de pensée du mouvement communiste, avec soit une conservation stricto sensu, soit une conservation matinée d'innovation, mais quand même le périmètre de pensée reste agencé à ce qu'on pourrait appeler le fil de l'histoire du mouvement communiste européen et international. Alors ça concerne au tout premier chef, hein, s'il y a un parti qui est incarnation de ce modèle-là, c'est le Parti communiste grec. Parti communiste grec, Koukoué en grec, ou Kappa Kappa Epsilon, c'est un parti, il faut deviner que pour eux, le mur de Berlin est tombé, il faut deviner que pour eux, l'Union soviétique n'existe plus. Hein, vous lisez des documents du Parti communiste grec aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes qu'il y a 30 ans, les mêmes qu'il y a 60 ans. Mais c'est un parti qui n'est pas un parti si marginal. Hein, donc aujourd'hui, il est autour de 5 à 6% des voix, mais dans les années, début des années 2000, il était plutôt autour de 10% des voix. Il a une organisation syndicale qui lui est proche, il gouverne certaines villes et certaines municipalités, mais pour le dire de manière simple, en termes d'orthodoxie, c'est le plus orthodoxe de tous les orthodoxes, des partis de gauche radicale, hein, et qui reste très figé à un discours, la révolution, le prolétariat, Karl Marx, Lénine, etc. Donc un parti, si j'étais méchant, je dirais qui est dans le formol, dans une certaine mesure. Mais voilà. Alors, vous avez un autre parti qui est assez intéressant, qui est le Parti communiste portugais. Alors, le Parti communiste portugais est lui aussi très orthodoxe. Hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont parfois au Portugal et rencontrent des militants communistes, ou même en Belgique, hein, il y a des militants. Ça reste un parti également très marqué. En fait, c'est un parti très marqué par une personnalité historique, Álvaro Cunhal, qui a été son dirigeant pendant de très, très nombreuses années et qui était un stalinien, une personnalité très appréciée au Portugal, même par des non-communistes, mais un très grand stalinien, et qui reste marqué par son histoire, par son histoire de la clandestinité. Hein. Il faut aussi voir que certaines formations, le Portugal a été un régime autoritaire jusqu'en 1974, donc vous avez des partis qui ont été marqués par la clandestinité. Donc le Parti communiste portugais reste encore très marqué par cela, hein, par une vision très orthodoxe, par une vision très structuré autour de la manière dont on pensait dans le mouvement communiste international, mais quand même un parti bien plus souple que le Parti communiste grec. Alors, vous avez ensuite trois partis qui sont à l'intermédiaire d'une deuxième formule. Vous avez le PTB. Le PTB en Belgique, PTB-PVDA, parce qu'en fait, le cœur de la vie politique du PTB, ça se voit peut-être pas, mais il est flamand. Donc c'est PTB-PVDA, Parti du Travail de Belgique, Partij van de Arbeid, qui lui, un parti très intéressant pour un politologue comme moi, qui aime bien ces partis-là, il n'est pas un parti communiste héritier du mouvement communiste. Hein, et d'ailleurs, le PTB s'est construit contre le Parti communiste de Belgique. Le PTB, c'est une organisation qui est né à la KU Leuven. Vous voyez que c'est mieux l'ULB, hein, qui est né à la KU Leuven. Et c'est une organisation d'étudiants à l'origine, une organisation d'étudiants maoïstes. Donc c'est un parti pro-chinois, donc qui défendait les thèses de Mao jusqu'à son décès en 1976, et puis qui va rester très pro-chinois jusqu'en 1989, hein, le printemps de Pékin. Et puis qui est encore très imprégné de maoïsme, mais moins idéologiquement que dans ses comportements, et qui, dans sa rhétorique, dans son périmètre de pensée, reste très marqué, c'est logique aussi pour un parti aux origines maoïstes, par l'histoire de la révolution soviétique, l'histoire du mouvement communiste, ce qu'ils estiment être les déviations du mouvement communiste. Donc, c'est beaucoup moins visible aujourd'hui que ce ne l'était au début des années 2000, mais ça reste, en tout cas à mon estime, pour être très correct, très important pour ce parti. Et en même temps, c'est un parti bien plus souple, notamment en communication, que ne l'est le Parti communiste grec ou le Parti communiste portugais, qui par ailleurs évolue aussi. Hein, il est dans une phase d'évolution depuis son 8e congrès en 2008, hein, même si c'est une évolution plus formelle que substantielle de mon point de vue. Mais il reste encore très marqué. Hein, et vous pourriez le voir, par exemple, en assistant à des formations. Hein, Lénine garde une importance forte chez eux. La lecture des ouvrages de Marx, par ailleurs, très important de mon point de vue. Donc, il fait partie de cette première catégorie, mais il dévoile aussi pas mal de souplesse dans la communication et des approches qui sont très éloignées aujourd'hui de celles, par exemple, du Parti communiste grec. Un autre parti, aussi très marqué par l'histoire, c'est le Parti communiste de Bohême-Moravie, l'héritier du Parti communiste de Tchécoslovaquie. Et depuis la scission de la Tchécoslovaquie, ben, c'est le Parti communiste de Bohême-Moravie. En fait, le Parti communiste tchèque, avant 1945, était un des seuls partis communistes puissants en Europe centrale et en Europe orientale. Et donc, après 1989, s'est imposé comme le parti de défense des intérêts du monde ouvrier dans une société en changement. Et c'est encore un parti très marqué, bien sûr, par l'histoire du régime communiste et par l'histoire du communisme tchécoslovaque avant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui est en déclin, mais qui reste encore très marqué par le périmètre du mouvement communiste européen. Et vous avez, je l'évoquais tout à l'heure, c'est un parti qui est peu connu, le Parti des travailleurs de Chypre, mais c'est le plus grand parti communiste d'Europe occidentale, vous allez le voir tout à l'heure. Donc ces cinq partis-là, avec des nuances, je pourrais vous parler vraiment longuement de ces partis, sont des partis pour lesquels, en tout cas, le rapport soit au modèle organisationnel, tous ces partis sont des partis centralistes, par exemple. Tous fonctionnent sur le mécanisme du centralisme démocratique. Le PTB, c'est un bon exemple. C'est le parti le plus centraliste de tous les partis en Belgique. Il y a des discussions à la base, mais pour savoir si on met du rouge ou du vert sur les affiches, mais pas sur la ligne politique. Donc c'est un parti très centraliste, le Parti communiste grec, le Parti communiste portugais également. Donc, première grande configuration. Je vous l'ai dit, modèle peut modifier le centralisme démocratique, référence aux États et au système communiste. Alors, ce qui est important pour ces partis, c'est que formellement et fondamentalement pour eux, en fait, c'est formellement et fondamentalement la référence, c'est imaginer la révolution. C'est très difficile d'imaginer la révolution aujourd'hui, mais prenons deux partis qui appartiennent à cette catégorie, mais qui sont distincts, le Parti communiste grec et le PTB. Le Parti communiste grec, il dit aujourd'hui, toujours, et le peuple doit construire son identité, etc., pour faire la révolution. Et dans le chef du PTB, la logique sera plus qui est intégrée, il faut une forme de rupture. Vous avez peut-être suivi les négociations, faites à votre aise. Les négociations qui ont suivi les élections communales, on a parlé de l'entrée du PTB dans la majorité éventuellement à Charleroi, dans la majorité à Molenbeek, dans la majorité Herstal, à Liège, éventuellement à La Louvière, et puis à Zelzate, puisque à Zelzate c'est advenu. Ce que disaient les négociateurs du PTB, c'est qu'il faut qu'il y ait une rupture. L'idée de rupture est très importante dans leur imaginaire. Je pense que dans l'imaginaire, quelle peut être la rupture n'est pas claire. Mais c'est, je crois, assez logique. Mais en tout cas, il y a cette idée de rupture. Nous sommes là pour la rupture. Alors, après, rupture peut s'entendre de manière différente, et ça s'entend de manière différente chez les membres et les cadres du PTB, mais il y a cette idée-là. Et donc, si on accède au pouvoir, fatalement, on y accède dans un cadre de rupture. Et reparlons du PTB, nous avons en Belgique des élections européennes comme tout le monde, mais aussi des élections fédérales et régionales le 26 mai, le PTB a dit « nous n'irons pas dans les exécutifs fédéraux et régionaux parce qu'il n'y a pas moyen d'y faire la rupture ». Venons-en au deuxième modèle, qui est ce que je pourrais appeler une gauche à la gauche de la social-démocratie et qui se vit un peu comme un levier ou un aiguillon de la famille socialiste ou de la famille social-démocrate. C'est un modèle qu'on retrouve beaucoup dans les pays d'Europe scandinave, Europe nordique, en Islande, en Finlande, en Norvège, au Danemark et en Suède. Hein, et donc, vous avez le parti de la gauche en Suède, l'alliance de gauche en Finlande, la liste d'unité rouge-verte au Danemark, comme exemple. Et d'ailleurs, si un jour vous suivez une après-midi ou une soirée électorale d'un de ces États, vous verrez qu'en première approche, contrairement à ce qu'on fait par exemple en Belgique, on vous présente les résultats par bloc, le bloc de gauche et le bloc de droite ou le bloc des droites radicales. Hein, donc, si ça vous intéresse, il y a dans quelques jours maintenant des élections en Finlande, hein, et on va vous présenter souvent bloc de gauche, bloc de droite. On va avoir des élections au Danemark, c'est encore plus clair au Danemark. On va vous dire bloc de gauche, et puis on va décliner les partis du bloc de gauche, bloc de droite, les partis du bloc de droite et le parti de la droite radicale. Hein, donc, ils sont intégrés culturellement et politiquement dans un bloc. Hein, dans un bloc. Donc, quelle est leur identité? Ben, je vous l'ai dit, c'est en gros d'être une espèce d'aiguillon de la social-démocratie, une piqûre de rappel, comme on dit parfois, et d'amener un certain nombre de thématiques, soit comme parti de l'extérieur du gouvernement, soit d'essayer d'amener le Parti social-démocrate plus à gauche. Après, ce qui est aussi intéressant à observer pour ces partis, c'est qu'ils sont, depuis 15 ans maintenant, des grands promoteurs des thématiques de ce qu'on appelle la gauche libertaire. La gauche libertaire, c'est quoi ? C'est les thématiques sur les questions de société que j'évoquais avec vous. Donc, tout à l'heure, je vous avais donné l'exemple de l'environnement, l'exemple de la politique carcérale, l'exemple du cannabis. Une des grandes thématiques de la gauche libertaire, c'est ce qu'on pourrait appeler les conceptions culturelles et les modes de vie aussi. Donc, typiquement, la place de la femme dans la société et une vision très inclusive de toutes les formes, de famille, mariage, de couples de même sexe et des choses de ce type-là. Et donc, notamment, les partis de la gauche scandinave sont porteurs d'une très grande attention à la place de la femme, à l'égalité homme-femme. C'est vraiment très, très important pour eux. Alors, élément, c'est que par rapport au premier groupe, il n'y a pas vraiment de référence à l'histoire communiste, il n'y a pas de référence du tout au modèle communiste. Et le plus souvent, ce sont des partis héritiers du Parti communiste, pas l'Alliance d'unité rouge-verte au Danemark, mais c'est le cas pour l'Alliance de gauche en Finlande, pour le Parti de la gauche en Suède. Donc, le modèle organisationnel est un modèle que je pourrais qualifier d'entre-deux. C'est-à-dire, ce n'est pas un modèle complètement nouveau, mais ce n'est pas non plus l'ancien modèle de centralisme démocratique. Donc, il y a un mixte entre une certaine forme de centralisme démocratique et une forme plus inclusive de la participation des adhérents. Et alors, ce qui les distingue du premier groupe, c'est que pour eux, il n'y a pas d'ambiguïté, hein. La démocratie représentative, la démocratie libérale représentative est le cadre de référence dans lequel on agit. On n'ambitionne pas de changer de régime, on ambitionne de l'améliorer éventuellement. Hein, et donc, l'atteinte des objectifs, la volonté de les réaliser et de les mettre en œuvre se fait, je dirais, sans rupture de régime. Hein, on essaie de pousser le gouvernement, le Parlement, les institutions vers les priorités qu'on s'est fixées, mais on n'essaye pas d'être dans une logique de rupture. Alors, le troisième groupe, c'est ce qu'on pourrait appeler, accepter que j'écrase les nuances, l'idée d'une gauche radicale qui veut se substituer à la social-démocratie, avec une certaine promotion d'un profil idéologique qu'on appelle d'un populisme de gauche. Alors, ce populisme de gauche, il vient principalement de deux auteurs qu'on cite beaucoup, mais que peu ont lu, Chantal Mouffe et Ernest Laclos, hein, qui, depuis 30 ans maintenant, promeuvent un populisme de gauche. Alors, c'est quoi leur idée du populisme de gauche à Chantal Mouffe? Ernest Laclos est décédé maintenant, mais Chantal Mouffe en parle encore souvent. C'est l'idée de construire un peuple. Hein, et en ce, il s'oppose au populisme de droite. Dans le populisme de droite, le peuple est vécu comme un peuple organique, c'est-à-dire préexistant. Un bon peuple versus les méchantes élites. Si vous lisez Ernest Laclos et Chantal Mouffe, ils ne vous disent pas il y a un peuple indistinct qui a toutes les mêmes envies et qui a toutes les mêmes attentes sociales et qui a toutes les mêmes idées. Ce qui, dans le populisme de droite, est implicite. Dans le populisme de gauche, pas. Ernest Laclos, il vous dit il est d'accord avec les politologues, il y a des clivages, donc il n'y a pas comme ça un peuple qui pense exactement la même chose, ça n'existe pas. Ce qu'il dit, c'est il faut, le grand terme à la mode, c'est l'intersectionnalité, il faut créer des conditions d'alliance des différents segments de la population sur des questions qui peuvent être différentes. La question économique et sociale, la question de la place de la femme de la société, la question de l'environnement, la question d'une approche spéciste ou antispéciste, que sais-je encore. Donc il faut faire une chaîne de solidarité et d'action politique en construisant un peuple contre, hein, et c'est la grande thématique du 1% versus 99%, hein, les 99% n'ont pas tous les mêmes intérêts, même parfois des intérêts divergents, mais il faut créer une chaîne d'intérêts communs contre le 1%. Hein, et donc, on est dans la logique du 1,99. C'est pour ça qu'on... Et ils assument le thème populisme. Hein, si vous voyez des interviews, si vous lisez des interviews, si vous regardez des interviews audiovisuelles de Chantal Mouffe, elle assume complètement le terme populisme. Donc, ça concerne qui? Ça concerne des partis avec des nuances dans ce que je vous dis. Mais Syriza, donc le parti au pouvoir en Grèce aujourd'hui, Die Linke pour parti en Allemagne, le bloc de gauche au Portugal, Podemos en Espagne et la France insoumise en France, fatalement. Donc des acteurs, dans une certaine mesure, relativement nouveaux dans le paysage de la gauche européenne, hein, qui se sont développés dans la période contemporaine, même si parfois il y a des racines, hein, Syriza est formellement un parti politique depuis 2005 seulement, mais il vient d'une coalition qui préexistait. Die Linke vient dans une large mesure de l'ancien parti du socialisme démocratique en Allemagne de l'Est. Donc, il y a à la fois de la nouveauté et en même temps, parfois, un héritage. Alors, ce qui est très intéressant à observer chez ces partis, c'est le caractère très hétéroclite du modèle organisationnel. Si vous suivez, en général, les francophones suivent l'actualité politique en France, si vous suivez un peu la France insoumise, je trouve que c'est un bon exemple. Au Podemos, c'est un bon exemple. Vous avez à la fois un côté hyper centraliste. Quand Jean-Luc Mélenchon a dit la position de la France insoumise est celle-là, il n'y a personne qui dit une autre position. Donc, Pablo Iglesias a dit la position de Podemos, c'est ça. Il n'y a pas d'autre position non plus. Donc, y a moi. Je vous donne un autre exemple. Les congrès de la France insoumise, vous savez comment ça se passe. Si vous ne savez pas, je vous raconte. On met tous les membres dans un pot et on tire au sort et vient ceux qui sont tirés au sort. Ça paraît très démocratique, sauf qu'il y en a 30 qui sont toujours là, dont bien sûr Jean-Luc Mélenchon. Donc ça vous donne une idée de ce modèle hétéroclite, mais ce qu'il faut observer, néanmoins, au-delà de ça, et on l'observe dans tous ces partis, c'est que, néanmoins, il y a des grandes discussions. C'est-à-dire qu'à l'interne, il y a des grandes discussions. Hein, il y a des tellement grandes discussions qu'aujourd'hui, par exemple, Podemos est en crise, parce que aujourd'hui, c'est un parti avec des vues tellement différentes. Ah, et que quand vous tirez sur l'élastique, à un moment, ça devient, vous devenez trop éloigné, l'élastique casse. Donc, ce qui est intéressant à observer, c'est que tous ces partis ont été ou sont sous tension, sous le caractère très hétéroclite des points de vue qui y militent. Die Linke, par exemple, il y a 6 ans, à un moment, dans le Congrès, le président a dit « Chers camarades, écoutez, nous ne sommes plus d'accord, il faut se séparer. Vous voulez ça, nous, on veut ça. » Et en fait, il n'y a pas d'intersection entre les deux. Hein, et à Syriza, juste après le référendum, tout un pan du parti est parti et a formé un nouveau parti. Donc, ce sont des partis, en fait, vu la grande malléabilité politique, intellectuelle et idéologique, qui dévoilent des points de vue, soit idéologiques, soit politiques, soit militants, très différents, qui fait que c'est compliqué de tenir le tout ensemble. Hein, et Podemos est un bon exemple. Aujourd'hui, Podemos a eu un congrès il y a quasiment juste un an, un peu plus d'un an, qui s'est déchiré, hein, littéralement déchiré. Et aujourd'hui, ils vont aux élections qui interviennent, je crois, le 25 avril, aux élections espagnoles, complètement le moral dans les chaussettes et un parti déchiré, en particulier entre les deux principales personnalités du parti. Donc c'est un modèle organisationnel et un type de parti assez problématique. Alors une des grandes nouveautés, c'est que contrairement au mouvement communiste, par exemple, ils ont relativement peu de relations avec le mouvement syndical. L'exercice du pouvoir est une ambition. Je vous disais tout à l'heure, le PTB a déjà dit « Nous ne voulons pas participer au gouvernement régional, au gouvernement régional, pour être plus correct, et au gouvernement fédéral. » Voilà, Jean-Luc Mélenchon, il voulait devenir président de la République. Ça ne vous échappait pas. Il était très déçu de ne pas être gardé au premier tour. Donc, l'ambition d'exercer le pouvoir est réel. D'ailleurs, Syriza est au pouvoir. Podemos est au pouvoir dans certaines régions avec le PSOE, est dans une coalition qui détient la mairie de Barcelone et dans une coalition qui détient la mairie de Madrid. Donc, le pouvoir est une ambition. Le pouvoir est une ambition. Hein, et je vous l'ai dit, le débat interne est la norme. Et donc, parfois, c'est un avantage, mais c'est en même temps une grande difficulté. Hein, et on le voit à travers les exemples que je vous ai donnés. Donc on est plutôt dans une logique de ce que j'appelle d'agrégation de strates qui fonctionne bien, c'est comme pour chacun d'entre nous je pense, qui fonctionne bien quand vous êtes contre quelque chose, quand vous luttez contre quelque chose, les différences sont moins marquantes. Et quand vous êtes dans l'exercice des responsabilités, là vous voyez tout de suite que en fait... Vous croyez que vous êtes d'accord, mais vous n'êtes peut-être pas si d'accord que ça. Donc ça, c'est la difficulté de fonctionnement de cette gauche radicale de substitution. Alors je termine par quelques mots sur les perspectives, en rapide. Alors, ce qu'il faut observer, c'est que cette gauche radicale, elle est en pleine mutation. Si je vous avais fait cette conférence en 2014... On présentait alors plein de perspectives très réjouissantes. Aujourd'hui, à la lumière de la France insoumise, de Podemos, de Syriza, le regard est tout autre. Mais bon, elle se déploie dans un contexte qui est un contexte, d'ailleurs, que vous pouvez observer, d'exacerbation politique et sociale. Regardez les gilets jaunes en France, regardez d'autres États. On est dans un contexte d'exacerbation politique et sociale. Un contexte incroyable d'affaiblissement de la social-démocratie européenne. C'est une thématique sur laquelle je travaille énormément. Vous devez toujours avoir le doute méthodologique, mais d'après moi, la social-démocratie ne s'est jamais aussi mal portée de point de vue de tous ses indicateurs qu'aujourd'hui, en temps de paix, bien sûr. Elle ne se portait pas bien entre 40 et 45, mais... En temps de paix, jamais la famille socialiste ne s'est aussi mal portée qu'aujourd'hui. Donc, il y a la question d'une éventuelle substitution. Et cette question, elle se pose, elle n'est pas que rhétorique. Si vous regardez des pays comme la Grèce, les Pays-Bas, l'Islande, Chypre, l'Espagne et la France, la question se pose vraiment. Aujourd'hui, en Grèce, aux dernières élections, Syriza a fait 35%, le parti socialiste grec PASOK a fait 6%. Aux Pays-Bas, aux dernières élections, le PVDA a fait 5,5%, le SP 9%. En Islande, le Parti Rouge-Vert a fait deux fois plus de voix que les socialistes. À Chypre, c'est le cas depuis longtemps. Et aux dernières élections en Espagne, on va voir le 25 avril, l'écart était de 1 point entre le PSOE et Podemos. En France, ben, vous avez vu que Jean-Luc Mélenchon a devancé Benoît Hamon aux élections présidentielles. Et dans l'imaginaire depuis 2017, la France insoumise existe. Le Parti socialiste, s'il existe, il faut me le présenter, hein, parce que moi, je ne le vois pas. Donc, troisième point, alors ça évolue dans certains pays, mais uniquement dans certains pays. L'étiage de la famille écologiste est assez faible aussi. Hein, quand je dis ça dans certaines conférences, on me dit « Mais non, regardez, écolo et Groen, tout va bien, on va faire un score formidable. » Peut-être, je le leur souhaite, mais j'ai travaillé avec Caroline Claus sur les performances des partis verts en Europe de 1980 à 2018. Et en moyenne, depuis 5 ans, l'étiage des verts est plutôt faible. Alors il y a toujours des exceptions. Notamment GroenLinks aux Pays-Bas lors de la dernière élection. Là, il y a une dynamique, mais observez que cette dynamique est très centrée sur un cœur de cœur que je peux appeler le Benelux, l'Allemagne, et l'un ou l'autre cas de temps en temps. Hein, mais les Verts ne vont pas très bien en Europe scandinave. Ils sont inexistants dans le sud de l'Europe. Ils sont presque inexistants en Europe centrale et orientale. Et là où ils avaient des positions, ils les ont parfois perdues, comme en Autriche. Hein, en Autriche, le président vient des Verts historiquement, mais aux dernières élections législatives, les Verts ont perdu leur représentation parlementaire. Hein, en Italie, ils ont été au gouvernement, ils n'ont plus un seul parlementaire aujourd'hui. En France, Europe Écologie, les Verts, a combien de parlementaires? Un. Donc, on va voir ce qui va se passer, mais il faut faire attention au prisme de regarder notre État. Tendanciellement, depuis quelques années, les Verts ne vont pas très bien. Ça pourrait changer. Hein. Alors, des perspectives politiques peu définies, vous le voyez à la fois avec les partis du premier groupe et les partis du troisième groupe. Parfois, ils accèdent au pouvoir et il y a de la déception. Hein, les deux cas les plus connus, je vais y revenir, c'est laquelle et Syriza. Et puis, parfois, vous avez des partis dont on ne sait pas très bien sur quoi ça peut déboucher. Hein, l'exemple du Parti communiste en Grèce, l'exemple du PTB en Belgique. Hein, ils veulent des voix, mais ne veulent pas gouverner. L'exemple du SP aux Pays-Bas, l'exemple de la France insoumise, hein, dont on ne voit pas très bien notamment par rapport aux élections subnationales, les élections départementales et les élections municipales, où ça peut aller. Donc les perspectives ne sont pas toujours extrêmement définies. Et quand ils sont au pouvoir, c'est-à-dire rarement, mais les politiques publiques ne sont pas toujours très différenciées. Hein, et les deux cas les plus connus, à l'échelle nationale, bien sûr, il y a des cas aux élections locaux, mais c'est l'exemple de laquelle en Chypre et l'exemple de Syriza en Grèce. Voilà, si vous êtes un électeur de gauche radicale, l'apport majeur de laquelle et l'apport majeur de Syriza, du point de vue de la gauche radicale, ne saute pas aux yeux. Or, il faut être prudent, c'est pas un jugement que je porte, je n'ai pas à juger, et il faut être prudent parce que laquelle et Syriza sont venus dans des conditions très défavorables, surtout Syriza, laquelle... Bon, quand même une bonne dose d'incompétence de mon point de vue, mais voilà, comme on dit chez nous, au final, l'output apparaît pas majeur d'un point de vue de la gauche radicale, et notamment dans cette idée d'être une substitution à la social-démocratie. Hein, l'apport, la valeur ajoutée par rapport à la social-démocratie, hein, dans les expériences de gauche au pouvoir, de gauche radicale au pouvoir, n'est pas extrêmement fort. Ah, après, c'est un débat, par ailleurs. Hein. Alors, qu'en est-il en termes de performance? Hein, je voulais juste terminer par ça, et deux, trois points. Bon, il y a une grande performance, et celle de laquelle, comme ça, vous voyez que je ne vous mens pas, hein, un parti qui fait entre 25 et 33 % des voix. Après, vous avez des choses plus nuancées, la gauche unie en Espagne, Podemos en Espagne, vous voyez, entre 20 et 21 %. Ici, vous avez les performances d'un petit parti aujourd'hui, le PCF, hein, grandeur et décadence d'un grand qui est devenu un petit parti, celle de la France insoumise, 11% aux élections législatives. Ensuite, vous avez le Parti communiste grec, vous voyez, une base d'étiage entre 5 et 8%. Vous avez Syriza, 35% aux deux élections de 2015. Vous avez la gauche radicale italienne, je vous disais qu'elle n'en était nulle part, ben, je ne vous mentais pas, hein, 1,1% aux dernières élections. Le Parti communiste portugais, autour de 7 à 8%, et le bloc de gauche, aux alentours de 10%. Vous le voyez à la dernière élection, aux alentours de 10%. Donc ça, c'est ce qu'on peut considérer comme les partis qui sont en progression. Bien sûr, il y a d'autres domaines que l'Europe du Sud, en progression ou en régression, mais en tout cas dans le sud de l'Europe. Vous avez ici l'Europe du Nord, la liste rouge-verte au Danemark, qui a plutôt tendance à grimper. Le parti de la gauche en Suède, qui est relativement stable, entre 5 et 8%. L'alliance de gauche en Finlande, qui est plutôt dans une logique de déclin limité, mais continue, entre 10 vers 7%. Ça, c'est la liste rouge-verte en Islande. Et enfin, vous avez le Parti socialiste du peuple en Norvège, qui, vous le voyez, n'est pas nécessairement en progrès. Donc ça vous permet de voir que derrière l'idée d'une gauche radicale en progrès, en fait, en Europe du Sud et en Europe du Nord, il y a des choses qui sont un peu distinctes. Enfin, comme pour les Verts, il y a un espace qui est un espace vraiment vide, c'est l'Europe centrale et orientale. Donc je vais d'abord vous parler de l'Europe du centre, c'est-à-dire l'Europe du centre entendue dans le sens contemporain, l'Allemagne avec Die Linke, la Belgique avec le PTB, PVDA, qui vous permet de voir qu'il ne faut pas surdimensionner à l'échelle belge aux élections fédérales de 2014. Le PTB, PVDA a fait 3,1%. Là, vous avez le Parti communiste luxembourgeois, un tout petit parti, Die Linke, dont je vous parlais. Vous voyez, c'est intéressant, il y a une dynamique qui se produit. C'est un petit pays, c'est vrai, mais c'est quand même un État membre de l'Union européenne, un État fondateur de l'Union européenne. Et là, vous avez le Parti socialiste des Pays-Bas, qui est en difficulté pour l'instant, qui a du mal à trouver, je dirais, un nouveau souffle et un nouveau souffle idéologique. Et je vous le disais, comme pour les Verts, l'Europe centrale et orientale, à part le Parti communiste de Bohême-Moravie, qui par ailleurs ne va pas très bien, et un petit parti qui vient de naître, la gauche radicale est quasi absente de ce spectre-là. Elle est par ailleurs absente de plein d'États, de manière saillante en tout le cas, en Autriche, en Grande-Bretagne, en Irlande, à Malte, en Suisse, en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie, en Croatie, en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, en Macédoine du Nord, au Monténégro, en Pologne, en Serbie, en Slovaquie. Donc vous voyez, ça vous permet aussi de nuancer, d'avoir une approche un peu plus pondérée sur l'idée d'un grand renouveau des gauches radicales. Dans un nombre appréciable d'États, il n'y a aucun renouveau du tout. Il n'y a même parfois pas de gauche radicale tout court. Voilà. Je vais peut-être terminer par un dernier élément. C'est, je vous le disais tout à l'heure, je vous ai présenté surtout les partis qui se présentent aux élections. Une des choses qu'on observe, c'est qu'il existe, on peut le qualifier à la gauche de la gauche ou parfois d'extrême gauche, des mouvements qui n'ont pas la volonté ni l'ambition d'agir dans le spectre politique de nature que je qualifierais institutionnelle. Et donc, il existe ce que j'appelle parfois une tentation mouvementiste, de dire, un peu comme le syndicalisme révolutionnaire à la fin du XIXe siècle, il faut changer les choses dans la société, pas dans les institutions. Et c'est d'ailleurs une des difficultés pour les partis de la gauche radicale européenne, c'est de convaincre des tenants de la gauche mouvementiste que certes on peut être dans un cadre de manifestation, de contestation, d'action originale comme des ZAD, ou d'une autre façon comme les Gilets jaunes, que sais-je encore, mais que la traduction politique est quelque chose d'important, c'est-à-dire le vote et éventuellement l'exercice du pouvoir. Hein, et c'est une des difficultés qu'ont plusieurs partis de gauche radicale aujourd'hui, hein, c'est de convaincre des électeurs potentiels que c'était intéressant. Parce que une des choses qu'il faut bien observer, c'est indépendant de la gauche radicale, mais en même temps pas du tout, c'est qu'on est dans un déclin de la participation électorale aux élections nationales et plus encore aux élections subnationales. Or, nous ne sommes pas égaux devant la participation électorale, c'est-à-dire qu'en fonction des profils que nous avons, nous aurons plutôt tendance à voter et plutôt tendance à ne pas voter, statistiquement bien sûr. Hein, plutôt tendance à voter des gens comme moi, c'est-à-dire des gens avec un fort capital scolaire, avec un emploi stable, bien payé, et plutôt tendance à ne pas voter des gens avec un faible capital scolaire, dans la précarité, hein, et donc ça a un impact sur les résultats électoraux, c'est-à-dire que on peut mesurer tendanciellement et statistiquement que plus la participation est faible, plus c'est favorable à la droite ou au vert, et plus la participation est forte, plus c'est favorable à la gauche sur le clivage économique et social, soit la gauche radicale, soit la gauche social-démocrate. Et donc, un des enjeux pour la gauche radicale, c'est de convaincre des parties du corps électoral désillusionnés par la politique qu'on va qualifier d'institutionnelle, de ne pas être fixé soit par des mouvements de colère comme le mouvement des Gilets jaunes, soit par des mouvements extra-institutionnels plus structurés comme les ZAD, par exemple, ou d'autres types de mouvements, mais d'aussi traduire cela dans le cadre classique, c'est-à-dire les élections et la participation au pouvoir. Voilà, je vous remercie.
Ici se clôture la seconde partie de la conférence de Pascal Deluit consacrée aux gauches radicales en Europe et enregistrée le 21 mars 2019 à l'auditoire Chavannes du campus du Solbosch de l'ULB.